Seigneur, merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour cette parole éternelle, cette parole qui ne change pas. Et Seigneur, nous voulons vraiment en tirer le meilleur pour nous ce matin, afin que nous puissions encore être changés, changés de l'intérieur, changés dans certains domaines pour progresser et pour mieux te servir. Seigneur, nous te louons pour cela au nom de Jésus. Amen. Voilà, je continue la série de l'idolâtrie, pour ceux qui veulent avoir un peu plus sur cette question-là, c'est ce livre-là qui m'a beaucoup inspiré pour entrer un peu davantage sur cette question d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose auquel nous sommes tous exposés, et l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre ont beaucoup insisté en disant « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Je comprends qu'on puisse pas être forcément très éveillé sur cette question-là, parce que moi-même, pendant des années, même en tant que pasteur, je pensais pas que l'idolâtrie était quelque chose qui touchait l'Occident. Je pensais que c'était plutôt l'Afrique, enfin, vous voyez, parce que je pensais que c'était quelque chose qui était derrière nous. Jusqu'à ce que je réalise effectivement que c'est beaucoup plus proche qu'on ne peut le penser, parce que c'est pas seulement lié au statut, aux choses extérieures, mais c'est lié à notre cœur qui fabrique une idole. Notre cœur est une fabrique d'idoles. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans une fabrique, eh bien, vous arrêtez pas la chaîne de fabrication, ça sort, hein, comme des petits pains. Et donc, si on n'est pas conscient de ça, eh bien, on tombe facilement dans le piège de l'idolâtrie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais bien vous dire avant de regarder le personnage de Léa, c'est que très souvent, en tant que chrétien, on a une vision très naïve de la Bible. C'est pour ça aussi que je vous encourage à voir l'Expo Bible qui vous donne vraiment une vision réaliste. Je voyais pendant la présentation de Monsieur Arnera, qui est le chef de projet de cette expo et qui la possède sur le bout des doigts, qu'il y a certaines personnes qui pâlissaient quand il expliquait certaines réalités. Des réalités qui, vous voyez, c'est important de pas vivre dans une illusion, quelle que soit l'illusion. Hein. Une illusion biblique, c'est une illusion comme une autre. Hein. On imagine des choses, on embellit des choses, et après, quand on voit les choses réelles qui ne sont pas conformes, on est désillusionné. Vous connaissez la désillusion, le désenchantement? Ça veut dire qu'on tombe d'un piédestal et puis on se fait mal, parce que voilà, et on souffre. Donc pour éviter la souffrance, éviter la désillusion, il faut voir les choses en face de manière réelle. Qu'est-ce que c'est que réellement? Ça. Et l'idole fait partie de ça. Et là, les personnages de la Bible, on les idéalise. Et par exemple, Abraham, on pense qu'Abraham est un homme presque parfait. Isaac aussi, Jacob, Joseph, David, tout ça. Et on occulte leurs défauts. Hein, on occulte volontairement leurs défauts parce que on veut un peu s'identifier à ces personnages pour être comme eux. Marie, n'en parlons pas, hein, voyez, sachant qu'il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus qui est parfait, hein. Et on le sait, en tant qu'évangélique, on le sait, mais en fait on projette sur les autres personnages des idées de perfection, et on ne voit pas leurs défauts, et ça c'est très très mauvais, c'est très mauvais parce que, en fait, nous sommes comme ces personnages. La Bible présente des choses réalistes, et présente la vie réelle. Ok, et la vie réelle, c'est qu'on est tous faillibles, on a tous des défauts, on n'est pas parfait, on n'est pas complet, on a besoin de l'autre, etc. Et ça, c'est une vision réaliste qui permet de relativiser notre attitude par rapport à un idéal, que ce soit le nôtre, que ce soit le pasteur. Vous savez combien de chrétiens idéalisent le pasteur ou leur église, et quand il y a des problèmes, ils tombent de haut et quittent l'église, et puis après, on a ce qu'on voit aujourd'hui. La diversification des cellules, il y a des gens même qui vont plus jamais dans une église, qui sont chez eux, ils prient Dieu chez eux, voilà. Et donc, le corps de Jésus souffre, et à cause de cette idéalisation, en particulier les personnages. Et donc, s'il y a des personnages là-bas sur l'Expo Bible, regardez, informez-vous, et vous comprendrez mieux un petit peu la Bible. Donc, La Bible, il faut le voir de manière linéaire, de la Genèse à l'Apocalypse, comme une histoire de gens qui ont toujours failli. Qui ont toujours failli. Dans un domaine, dans un autre. Et vous voyez, les Américains, les Anglo-Saxons sont plus pratiques que nous. Nous, on a plus une culture grecque où on idéalise les choses, on conceptualise les choses. Les Anglo-Saxons sont plus pratiques et donc ils voient les choses de manière plus proche, quoi, plus réaliste. Et nous avons besoin aussi de cette attitude réaliste par rapport à cette vision de l'histoire. Ce matin, nous allons voir Léa. Il y en a qui connaissent Léa. Il y en a qui connaissent Jacob. Hein, les patriarches. Abraham, qui a donné naissance à Isaac. Isaac, qui a donné naissance à Jacob et Ésaü. Hein. C'était des jumeaux. Des jumeaux. Problème des jumeaux, c'est qu'ils peuvent pas sortir en même temps du ventre de la mère. Donc, il y en a un qui est premier, l'autre second. Hein. Donc, c'est le problème de l'aîné, du cadet, etc. Donc, lequel est sorti le premier? Ésaü. Donc normalement, lui, il reçoit l'héritage. Hein, le premier, c'est une règle. Et malheureusement, Dieu a inversé les choses et ça a un peu troublé Isaac parce que, en fait, il a pas trop suivi le plan de Dieu. Vous voyez, déjà là, malgré que ce soit un homme de foi, on a déjà vu Abraham qui a failli. En quoi il a failli, Abraham? Tous ceux qui ont entendu le message. En quoi il a failli? Pardon? Oui, non, mais en s'appuyant sur le message que j'ai donné, je suis d'accord? Voilà, idolâtrie de son fils. Il a idolâtré son fils. Hein, c'est là où il a failli. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse, aussi sur des erreurs, des illusions des chrétiens évangéliques. Je dis évangéliques parce qu'on croit toujours les évangéliques sont supérieurs aux autres. C'est pas vrai. C'est vrai qu'on cherche à être conforme à la parole, mais encore faut-il être conforme à la parole. Donc, en fait, qu'est-ce que je disais? Voilà, Abraham a failli. On pense qu'Abraham est parfait parce que c'est le père de la foi. Mais la foi, elle touche notre adhésion à l'écriture. Ok? Mais on peut très bien avoir la foi et faire des erreurs. Vous êtes d'accord? Hein? Voyez-vous, la foi, elle touche notre salut, mais les erreurs qu'on fait touchent pas notre salut. Parce que sinon, on ne serait jamais sauvé. Hein? Personne ne serait sauvé. Aucune personne qui reçoit Jésus dans son cœur, il devrait, après cela, être parfait pour être sauvé. Vous voyez, il faut bien déconnecter les choses. La foi, c'est notre manière d'être sauvé en croyant que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ça, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La justification vient par la foi en Jésus-Christ. Mais notre attitude après, de chrétien ou de croyants de l'Ancien Testament comme Abraham, il peut faire des erreurs sans pour autant que ça touche la foi. Voyez-vous ? Et c'est pourquoi certains chrétiens pensent que des démons peuvent pas attaquer des chrétiens. Parce qu'ils partent d'une idée que le Saint-Esprit collabore pas avec les esprits mauvais, etc. Enfin, il y a tout un tas d'idées qui circulent. Or, en fait, c'est pas vrai. C'est comme si on disait qu'un chrétien peut jamais avoir de rhume. Parce qu'il est chrétien, voyez-vous, voilà, il est immunisé de tout ce qui est autour. Voyez. Donc, ce sont des idées comme ça toutes faites. Ce qui fait que le problème de l'idole, quand on est idolâtre, et Abraham était idolâtre de son fils, parce qu'il attendait depuis longtemps cette promesse. Isaac est venu et il l'a tellement idolâtré qu'en fait, il a failli passer à côté du plan de Dieu. Et Dieu a dû lui demander de le présenter sur l'autel du sacrifice. C'était un sacrifice qu'il lui a demandé pour lui retirer l'idole de son cœur. Parce qu'il voulait qu'il soit attaché à Dieu seul. Voyez-vous. Donc souvent les épreuves sont là pour nous aider à nous attacher à Dieu. C'est pas parce que Dieu est méchant avec nous, c'est parce que justement il nous aime. Et qu'il veut qu'on soit plus attaché encore à lui pour mieux le connaître et pour être encore plus dans la bénédiction, être libéré de tout ce qui nous amène vers le mal et vers la malédiction. Alors, on a vu Abraham, on a vu Isaac, et Isaac, donc, a lui aussi été dans l'idolâtrie de son fils aussi. Il a reconduit l'erreur de son père. Qu'est-ce qu'il a idolâtré, Isaac? Ésaü, son aîné. Et tout bêtement, vous voyez, comme quoi les personnages bibliques sont faillibles comme nous. Et pourquoi est-ce qu'il a idolâtré? Quel était l'élément tout bête qui a conduit à idolâtrer Ésaü plutôt que Jacob? Voilà, c'est son ventre. C'est son ventre. Oui, il faut pas chercher loin. C'est son ventre. C'était un homme qui aimait le gibier. Il y en a qui aiment le gibier ici. C'est un peu spécial le gibier. Hein, voilà. Donc lui, il aimait le gibier. C'était un chasseur. Il sortait à la chasse. Il faisait des repas, voilà, qu'il aimait. Ésaü, il a suivi son père. C'est pas de sa faute. Ok. Il aimait la chasse. Donc il partait à la chasse. Jacob, non. Jacob aimait être dans les jupes de maman. Donc il restait à la maison. Il s'occupait des moutons, des lapins, des poules, enfin je sais pas, de la basse-cour. Et voilà, bah, il aimait pas, c'est son droit. Ah bah voilà, donc il était un peu le fils à la maman. Et la maman qui était assez rusée, là, lui a permis hein, d'obtenir ce droit d'aînesse par la ruse. Hein. Mais en même temps, elle n'aurait pas eu besoin de faire ça si Isaac avait naturellement suivi ce que Dieu a dit. Dieu a dit que l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est une promesse, c'est une prophétie. Très souvent, il y a des prophéties qu'on reçoit, on les suit pas. Hein? Dieu a beau parler, on continue notre chemin. Ah ben, c'était le cas d'Isaac. Et donc, il a idolâtré, mais alors là, voyez-vous déjà Abraham, il y a eu des problèmes graves. Suite à ses erreurs. Alors là, Isaac, c'est pareil. Hein. Avec Ésaü, Jacob, il a détruit les relations familiales dans sa famille. Hein. Ésaü, en étant idolâtré par son père, il est devenu quoi? Quelle est sa personnalité? Parce que ça joue sur la personnalité, après. Hein. Pas que sur la foi, sur la personnalité. La personnalité d'Ésaü était particulière, et celle de Jacob aussi. À cause, en partie, hein, c'est pas que la faute de son père, mais en grande partie à cause de son père. Qu'est-ce qu'il est devenu Ésaü, pardon. Bah, vous le connaissez, hein. Non, mais dans le caractère. Sa personnalité a été façonnée. Vous avez tous une personnalité, vous savez ce que c'est que la personnalité, votre personnalité? Hein? Il y en a qui sont, très extrovertis, il y en a qui sont, voilà. C'est ça la personnalité, c'est, vous avez tous une personnalité particulière, non? Je suis pas, vous êtes d'accord? Bon. Alors, Ésaü. Quelle est la personnalité, dans le mauvais sens, hein, le caractère, pardon, jalousie, je sais pas, hein, peut-être, mais en tout cas orgueilleux. Il est devenu orgueilleux, c'est fils à papa, l'héritier, ok. Et vous, l'orgueil, c'est pas toujours inné, c'est pas toujours lié à la personne, c'est aussi l'environnement qui produit ça. Il est devenu orgueilleux, il est devenu gâté. Vous croyez pas qu'il est devenu gâté? Devenu gâté. Il est devenu obstiné. C'est pas très bien, obstiné. Obstiné. Il est devenu aussi ce qu'on appelle impulsif. Vous savez ce que c'est l'impulsivité? Ça fait faire des bêtises, l'impulsivité. Hein? Parce que il est rentré un peu, beaucoup fatigué de la chasse. Hein? La chasse, ça fatigue, hein? Surtout à l'époque. Et son frère lui a proposé un deal. Hein? En disant, mais tiens, je te passe le plat de lentilles, t'as tellement faim, mais tu me donnes l'héritage. Et hop, il l'a obtenu. Voyez-vous, ça c'est l'impulsivité. Sur un coup de tête, on fait une bêtise énorme. C'est ce qu'il a fait. Voyez-vous, donc, le caractère d'Ésaü a été marqué par l'erreur de son père. Et Jacob, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a aussi hérité, influencé d'une mauvaise manière dans son caractère. Il est devenu cynique, perfide, amer. Vous voyez? C'est pas très bien ça. Vous voulez être comme ça? Hein? Donc, voyez-vous, en tant que parents, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, parce qu'on les modèle. Hein? On les modèle. Hein? Et voilà, Jacob Dieu a dû travailler dans le cœur de Jacob pour arriver à changer cela, à redresser ça, et ce n'est que des années après, lorsqu'il a lutté avec Dieu, que Dieu a changé sa vie et qu'il a pu revenir dans le pays de la promesse pour rentrer dans sa destinée. Mais tout un travail de souffrance, en passant par Laban. Alors aujourd'hui, je vais parler de Léa. Alors Léa, c'est qui par rapport à Jacob? Pardon? Oui? Et sa deuxième femme, c'est qui? À l'époque, ils avaient plusieurs femmes, hein. Enfin, c'est pas général, hein. Abraham n'en avait qu'une, Isaac aussi. Et Jacob l'a eu, c'est parce qu'il a pas voulu, hein. Mais parce que son beau-père était plus rusé que lui, hein. Il pensait être rusé, mais il en a trouvé un qui était mieux que lui. Et Laban a profité des faiblesses de Jacob, hein. Donc il a trouvé plus fort que lui. Alors on va lire dans Genèse, chapitre 29, c'est dans Genèse tout ça, hein. Personnage de Jacob et de Léa. Genèse, chapitre 29, verset 32. Léa devint enceinte et l'accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et s'accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle appela du nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. C'est sur ce texte, qui apparemment est anodin, hein, il raconte l'histoire de quatre fils qui sont nés de Léa, à partir duquel, quand on s'attache à bien observer ce texte, à écouter le texte, à refigurer un petit peu ce qui se passait à l'époque, qu'on comprend que Léa est la seule dans cette histoire à se sortir de l'idolâtrie. C'est étonnant, hein. Parce que Léa, en fait, elle a été refourguée par son père à lui, sans qu'il s'en rende compte, puisque c'est le lendemain qu'il s'est réveillé, qu'il a vu que dans son lit, il n'y avait pas Rachel, il y avait Léa. C'est un peu une drôle d'histoire, hein, mais c'est la réalité, voilà. Non, mais il y a des voiles, hein, ils avaient des façons d'attraper leur victime. Ici, Léa, donc qui était cette première femme qui l'a eue, et il y a que 7 ans après, il a dû travailler dur pendant 7 ans pour avoir celle qu'il aimait, Rachel. Eh bien, cette Léa, et on voit qu'elle s'adresse au Seigneur, hein, le Seigneur. C'est quoi le Seigneur? Alors, si vous allez sur l'Expo Bible, décidément, je vous invite à y aller. Il y a plusieurs noms, hein, pour Dieu. Il y a le nom de Yahvé, hein, Yahvé. Enfin, le tétragramme qu'on peut pas prononcer, que les Juifs ne prononcent pas. Ils prononcent pas Dieu. Hein, parce que quand on donne un nom, ça veut dire qu'on est au-dessus de quelqu'un. Hein, si je dis à mon chien, tu t'appelles Nestor, c'est moi qui suis le maître et celui, ouais. Donc, appeler Dieu, c'est pas possible chez les Juifs. On peut pas appeler Dieu. C'est Dieu, il est l'imprononçable, il est le tout autre. Vous voyez, donc, mais la conception juive déjà est beaucoup plus avancée que nous, hein, dans ces termes. Et on prononce pas le nom de Dieu en vain. Donc les Juifs ne prononcent pas. Dès qu'ils lisent dans la Bible Yahvé, ils prononcent pas. Okay, c'est pas prononçable. Respect, crainte de Dieu. Donc il y avait Yahvé et Adonai. Adonai, c'est le Seigneur, le Seigneur. Et quand on met les deux ensemble, ça fait Yahvé, puisque avec Adonai et le tétragramme, ça fait Yahvé. Comment ça se fait que, à l'époque, Rachel, Léa, qui n'était pas juive, hein, enfin, elle n'était pas née, elle était chez son père, hein, en Mésopotamie, et connaisse l'Éternel, le Seigneur, hein, Yahvé, si ce n'est que Jacob lui a dit. Donc elle l'a connu au travers de Jacob, qui lui a parlé de son grand-père, Abraham, qui a reçu la promesse. Et ça, elle l'a gardé dans son cœur. Et donc Léa avait aussi cette espérance de la promesse, qu'un jour, il arriverait un Messie, un enfant qui naîtrait et qui pourrait, eh bien, paître Israël, paître son peuple dans la paix. Et donc, il y avait une sorte de confusion en elle, et de cette vie de tristesse qu'elle vivait, puisqu'elle était rejetée de son père, enfin pas de son père, mais bon, c'est quand même un peu drôle, hein, de fourguer comme ça. Donc son père, il n'y avait pas vraiment de considération pour elle, hein, de ce point de vue-là, de ses camarades autour et tout ça, parce qu'il semblerait, hein, d'après les Juifs, que le verbe qui est utilisé pour Léa, il avait une malformation des yeux, il semble qu'elle louchait. Bon, quelqu'un qui louche, c'est vrai que bon, on peut se moquer facilement d'elle et tout ça, donc elle n'était pas très belle, contrairement à sa sœur qui était splendide et qui a tapé dans les yeux de Jacob. Elle a quand même subi toujours cet outrage de son physique, mais aussi de ce qui a eu comme conséquence, hein, son père, son mari maintenant, hein, qui la considère plus, hein, parce qu'en fait il attendait simplement d'être marié à Rachel et il a oublié Léa dans le circuit, et donc elle souffrait et elle s'adresse à ce Dieu qu'on lui a parlé, qui était celui qui pouvait répondre à ses prières. Donc elle s'adresse à Dieu. Non pas à n'importe quel Dieu, c'est Dieu Elohim qu'elle pouvait connaître dans sa culture, mais s'adresse au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de son mari Jacob. Et elle dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et là, on rentre dans la compréhension de toute la Bible. Toute la Bible, c'est une question de grâce. C'est pas simplement le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, partout, c'est une question de grâce. Il faut que nous soyons appuyés sur la grâce. Amen. Et un jour, un évangéliste qui vient d'Outre-Manche a dit, vous, en France, vous avez besoin de manifester la grâce aux Français. La grâce, c'est la grâce qui va les toucher. Voyez-vous, c'est pas tu dois pas, voilà, tout ça, ils le connaissent, c'est la religion qui les a écrasés, mais c'est la grâce. C'est gratuitement, le Seigneur nous donne sa bonté. Gratuitement, le Seigneur nous tend la main et nous devons la prendre pour être sauvés, pour être libérés. Et nous avons besoin d'être des chrétiens de la grâce. Donc, Léa tend la main sans vraiment connaître Dieu. Mais elle savait que Dieu seul pouvait la sortir de la misère dans laquelle elle était, la souffrance dans laquelle elle était, dans le rejet dont elle était l'objet. Et nous voyons dans les noms de ses fils, nous voyons la progression de sa foi. Pourquoi nous le voyons? Parce que à l'époque, contrairement maintenant où le nom des enfants, bah c'est plutôt l'originalité qu'on cherche, hein. Enfin bon, je juge pas, chacun choisit ses prénoms comme il veut, mais à l'époque, en tout cas, c'était une signification précise. Chaque prénom signifiait quelque chose, était donné en fonction d'un événement, d'une attention, de quelque chose de précis. Et le premier nom, c'est quoi, du premier fils de Léa? Pardon? Ça veut dire quoi, Ruben? Parce que Ruben, ça me dit rien, moi. Ruben, c'est quoi Ruben? Rien. C'est quoi en français courant? En français courant, ça veut dire quoi? Ah, parce qu'à l'époque, Ruben, ça voulait dire quelque chose de précis, hein. Nous, aujourd'hui, Ruben. Pardon? Non? C'est marqué dans vos Bibles, hein. Pardon? Mon humiliation. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi Léa a donné le nom mon humiliation? Pardon? Oui? Voilà. C'est le cri de son cœur, ça. Voyez-vous, c'est là qu'on voit que le choix du nom ou du prénom était le reflet de son cœur. Hello? Et vers qui, en fait, elle appelle ce cri, elle donne ce cri de l'humiliation? Vers qui? Vers Dieu, mais pas que vers Dieu. Oui, vers son mari. Vous voyez, les personnages bibliques, c'est pas des personnages fantastiques, là, des gens qui viennent des extraterrestres, non, c'est des gens comme vous et moi. Donc il faut se mettre en situation. Son mari à côté de lui. Son mari, tout ce qu'il fait, c'est qu'il regarde tout le temps sur Rachel, parce qu'il est idolâtré par la beauté de sa femme. Vous voyez, c'est ça son idolâtrie. Vous voyez, c'est tout. Et il aime la beauté de sa femme parce que lui, ça lui donne une identité, parce que lui aussi était écrasé, lui aussi machin, etc. Et chercher l'identité dans la beauté de sa femme. Voilà son idolâtrie. Okay? Au lieu de chercher dans les vraies valeurs. Et donc, Léa, c'était un cri vers son mari. En disant, attends, moi aussi j'existe. Moi aussi. Puis en plus, l'Éternel me donne des enfants. Rachel, elle était stérile. Ouais, parce que Dieu l'a fait exprès. Donc, c'était un cri vers son mari en disant, attends, tu peux pas m'aimer un petit peu? Tu peux pas regarder ton regard vers moi, voyez? C'est un cri de détresse, mon humiliation. Voyez-vous? Moi, je suis humilié. Et qu'est-ce qu'il a fait, son mari? Il a continué, comme si de rien n'était. Deuxième fils, comment il s'appelle? Siméon, ça veut dire quoi, Siméon? Pardon? Mal aimé. Est-ce que c'est pas là, la condition de Léa, mal aimé? Ça aussi, c'est encore un cri vers son mari. Tu m'aimes pas. J'étais mal aimé par mon père, j'étais mal aimé par ma famille, j'étais mal aimé par mes amis, j'étais mal aimé par la société. Et voilà, maintenant que toi aussi, tu m'aimes pas. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jacob réagit? Non? Il continue à être idolâtré par sa femme. Sa femme qui était vraiment bête, hein? C'était une femme immature. Non, mais Rachel était immature. Regardez le texte. Hein. C'est incroyable. La bêtise de cette femme. Ah, elle était belle. C'est ça. C'est ça l'idolâtrie. Vous voyez, plus qu'un truc, voilà. C'est ça devant vous. Et vous suivez bêtement les trucs. Et là, à côté de toi, il y avait une femme qui l'aimait. Et voulait son amour, son attachement. Et elle l'a pas. Donc il appelle son fils mal-aimé pour que tous les jours, quand il dit mal-aimé, 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 elle espérait recevoir de l'amour de son mari. Troisième fils, Lévi. Ça veut dire quoi, Lévi? S'attacher à. Et voulait dire à son mari, attache-toi à moi, je suis ta femme. Voyez-vous le cri de détresse? J'ai besoin que tu t'attaches à moi, pas uniquement... Ah Rachel, moi aussi j'existe. Voyez-vous, c'est un cri de souffrance, un cri de détresse. Mais l'idolâtrie de son mari pour Rachel, eh bien, il s'attachait pas à elle, au contraire, il la méprisait. Alors il se passe quelque chose, et c'est là la clé de notre histoire. Le quatrième fils s'appelle comment? Judas. Et ça veut dire quoi, Judas? Louange à Dieu. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la progression spirituelle? Ça, c'est de la progression spirituelle. Elle a vu que vis-à-vis des hommes, on n'a que déception. On n'a que déception. Pourquoi? Parce que elle idolâtrait le fait d'être mère, parce que bon, Dieu la bénissait, et à l'époque, en plus d'avoir des fils, là, c'était parfait, elle était sûre d'avoir l'attention de son mari. En plus, il donnait un héritage. C'était l'héritier qui allait hériter de toute la famille. Donc, trois fils, quatre fils. Mais il a compris quelque chose au niveau du quatrième. Voyez-vous ? C'est comme ça qu'on lit la Bible. On comprend les choses quand on voit les gens réagir autrement. Là, Jacob a dit, je louerai l'Éternel. Ça veut dire quoi ? Elle s'est détachée de l'attente excessive vis-à-vis de son mari, pour la tourner vers le Seigneur. Amen. Vous voyez la différence? Quand on se détourne ses yeux d'une attente excessive des hommes, que ce soit de son mari, de sa femme, de ses enfants, du politique, n'en parlons pas, etc., eh bien, qu'on tourne les regards vers Dieu seul, c'est là qu'on est sauvé. Amen. Et c'est là que le salut est venu dans la vie de Léa. C'est là que Léa a pu accomplir sa vision. Et quelle mission? Quelle mission, mes amis? L'ancêtre de Jésus. Eh oui, l'ancêtre de Jésus. Léa est devenue l'ancêtre de Jésus. Donc, pour revenir à ses trois fils, chaque jour, retournait le couteau dans la plaie de la souffrance de Léa, et elle regardait l'homme qu'elle aimait dans les bras de celle dans l'ombre de qui elle avait vécu toute sa vie. Rachel l'avait humiliée et continuait à l'humilier en étant la femme de Jacob. Vous voyez, c'est l'humiliation totale. Et donc, elle espérait que son mari regarde à elle. Et enfin, Léa, la naissance de Judas, il a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et chaque jour qui passait, son mari, eh bien, il n'avait pas la souffrance de sa femme, il avait « Je louerai l'Éternel ». « Je louerai l'Éternel, tu viens ?»« Je louerai l'Éternel, tu viens ?» C'est formidable ça, appelez votre fils comme ça. Et vous serez obligé de louer l'Éternel. Voilà. Vous voyez, c'est pratique ça. Hein? « Je louerai l'Éternel. Hein? » Ou alors « Joy bah. ».« Joy of my Lord. »« Joy of the Lord. » Vous voyez, c'est, vous avez des façons de trouver des petites astuces pour louer le Seigneur. Amen. Elle avait trouvé ça. C'est formidable. Et il n'y a aucune mention, ni de son fils, ni de son mari, dans cette appellation. Ni de son fils, ni de son mari. Elle loue l'Éternel et s'attache à l'Éternel. Jacob et son père, Laban, avaient volé sa vie. Mais elle, en donnant sa vie au Seigneur, elle l'a retrouvée. Amen. On trouve les principes du royaume. Dans Genèse 49, au verset 8 à 10, voilà les promesses à Judas. Fantastique, c'est Jacob qui les fait. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire le Messie, et que les peuples lui obéissent. Vous voyez la promesse à Judas? Fantastique. Aucun de ses fils, ses 12 fils, n'a reçu que lui cette promesse, parce qu'il a été consacré à l'Éternel, parce que sa mère a cherché à chercher l'Éternel et pas chercher dans les hommes. Amen. Ça, c'est un exemple de foi et de détournement de l'idole qui était la sienne, d'être une mère qui allait, avec ses capacités, attirer l'attention de son mari. Elle a compté sur le Seigneur. Ainsi Dieu est venu vers la fille dont personne ne voulait. Elle louchait, pouvait pas amener de dot correcte, la mal aimée. Et il a fait d'elle la mère ancestrale de Jésus. Le salut est venu dans le monde, non pas par la belle Rachel, mais par celle qui a été rejetée. Alors, ça vous dit quelque chose? Le texte dit que lorsque Dieu a vu que Léa était mal aimée, il l'a aimée. Et ainsi Dieu disait, c'est moi ton époux. Je suis l'époux de celle qui n'a pas de mari. Je suis le père des orphelins. Voyez-vous, c'est la grâce. Dieu fait grâce. Quand il voit qu'on souffre, bien Dieu vient à notre rescousse. Le Dieu de la Bible est venu dans ce monde pour accomplir le salut et pour nous confier une grâce que nous ne pourrions jamais obtenir autrement. Le Seigneur est notre berger et nous sommes le troupeau. Le Seigneur est notre roi et nous sommes ses sujets. Le Seigneur est notre époux et nous sommes son épouse. Amen. Relisez Isaïe 62. Il a épousé une terre. Nous sommes la terre épousée. Nous sommes l'épouse. Il y en a qui se sentent l'épouse du Seigneur. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous avez besoin de la grâce de Dieu pour réaliser l'amour que Dieu a pour nous. L'épouse. Dieu veut nous épouser. Et il nous a donné un époux, qui est Jésus. Voici la puissance qui aide à sortir des idoles. Voyez-vous, sortir de l'idolâtrie, c'est pas de dire, aujourd'hui je pue d'idole, aujourd'hui je pue d'idole. C'est pas la méthode Coué. C'est pas non plus de dire, bon, j'ai une idole dans ma chambre, mes parents sont pas contents, il y a Johnny Hallyday, machin et tout, je vais l'arracher et je vais cacher. Ouais, aujourd'hui, c'est pas Johnny. Hein. Je l'ai fait exprès. C'est pas la méthode. Hein. N'allez pas voir votre fils ou votre fille dans la chambre et saccager tout et tout arracher. Ça enlève pas les idoles, ça. Hein, les idoles, elles sont dans le cœur. Elles sont pas sur les murs. Okay. Donc, quelle est, suite à ce récit, quelle est la conclusion? Quel est le message? Quelle est la manière de sortir de l'idolâtrie comme Léa en est sortie, Abigaël? Comment sortir de l'idolâtrie? Vous savez, nous avons tous des idoles, hein, je vous rassure. On n'est pas mieux les uns que les autres. Il n'y a pas une idole plus grande que l'autre. Et le problème des idoles, c'est rien une idole, hein. C'est une image, c'est une représentation. Le problème, c'est que c'est les démons qui sont derrière. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, j'écoute votre réponse. Comment faire pour sortir de l'idolâtrie? Oui, mieux que ça. Oui, c'est bien. C'est bien, mais j'attends un peu plus. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est non pas seulement de revenir à Dieu, mais c'est d'aller plus loin avec Dieu. Voyez-vous ? C'est-à-dire, si vous êtes avec Dieu là, c'est bien. Vous retournez à Dieu, c'est bien. Mais pour sortir lui d'idole, il faut s'approcher davantage du Seigneur. C'est là la méthode. Parce que si vous aimez plus le Seigneur, vous allez moins aimer l'idole. C'est pas en se débarrassant de l'idole que ça va changer quelque chose, parce que si vous approchez pas plus de Dieu, bah, votre idole va vous manquer. Au bout d'un certain temps, vous allez la reprendre, hein. c'est comme les drogués qui sont en manque. Vous voyez? Donc, l'idée qui est derrière ça, c'est de s'approcher davantage de Dieu. Exemple. Votre mari est pas au Seigneur. Donc, il vient pas à l'église, il vient pas avec vous et tout ça. Est-ce que l'idée, c'est de lui faire subir un petit peu des choses pour que il vienne avec vous, voyez, être un petit peu voilà sarcastique tout ça avec lui ou pas? Non, c'est d'être plus gentil avec lui. Alors vous dites, ah, si je suis plus gentil, il viendra pas et tout ça. Et vous, mais il y a une belle-mère qui pendant 10 ans a prié pour son mari et faisait des petits plats, mais comme jamais il a eu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme est super avec moi et tout ça. Pendant 10 ans, il est jamais allé à l'église et un jour, Dieu l'a touché. C'est la grâce, c'est ça la grâce. C'est gratuit. On s'approche davantage du Seigneur et le Seigneur, bien l'idole, elle s'en va toute seule. C'est ça l'idée. Elle s'en va toute seule. Parce que elle est écartée. C'est comme si le Christ venait dans sa puissance de lumière, et bien éteindre la petite bougie qui est là. Vous la voyez plus? Hein? Il y a, je sais pas combien de milliers de luxes, qui par rapport à des petits luxes, c'est plus rien. Il n'y a plus de luxe. Il n'y a plus que le Seigneur. Je suis le véritable époux, dit le Seigneur. Et pour les couples, ceux qui sont mariés, ils ont besoin de ces paroles pour sauver leur mariage du poids écrasant de l'attente. Vous voyez, souvent quand on va dans le mariage, jeune ou moins jeune, on attend beaucoup du conjoint. Et là, quand on attend beaucoup, on est beaucoup déçu. Donc, parce que on met un poids sur l'attente. On voudrait que le conjoint soit comme ça. Donc il y a tel poids qu'à la limite, le conjoint fait encore pire. Parce qu'il sent ce poids, il réagit, voilà. Et vous êtes déçu. Voilà. Et donc, vous allez libérer votre conjoint de cette attente excessive que vous avez sur lui si vous le portez sur le Seigneur. Si vous le portez sur le Seigneur, votre attente, vous serez jamais déçu. Parce que le Seigneur, il vous donnera tout ce que vous voulez. Il va vous combler de tout ça. Et votre mari sera content ou votre conjoint sera content parce que il aura en plus vos bienfaits, vos machins, etc. Parce que vous dépendez pas de lui, vous dépendez du Seigneur. Alors, et vous? Donc la solution de l'idole ou de tout cela, c'est toujours de s'attendre plus au Seigneur et d'être plus proche du Seigneur et de s'approcher davantage du Seigneur. Il n'est pas question d'aimer moins votre conjoint, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il est question de l'aimer tout en aimant davantage le Seigneur. C'est le mot davantage qu'il faut retenir ce matin. Amen. Plus nous connaissons Dieu, plus nous allons libérer nos conjoints de nos attentes. Alors Jésus. Bel exemple de Léa. Lorsque Dieu est descendu sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ, il est vraiment le petit-fils de Léa. Il faut bien comprendre ça. Il s'est passé quelque chose dans l'histoire de Léa qui a fait qu'elle est devenue la mère ancestrale de Jésus. Et Jésus était vraiment le petit-fils de Léa. On parle de Léa, là. Il est devenu l'homme dont personne ne voulait. Né dans une étable. Aucun éclat pour nous plaire. Ésaïe 53. Dans Jean 1, verset 11, il est dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et à la fin de son histoire à la croix, tous l'ont abandonné. Tous sont partis. Y compris le Père, qui l'a abandonné. Ça, c'était terrible. C'est terrible. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous l'abandon total. Jésus, c'était Léa en multiplié par l'infini. Ok? Même son Père, qui l'a servi, il l'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il est devenu péché pour nous. Il a accepté ça par amour. Il est devenu péché. C'est le péché que le Père a abandonné. Mais il l'a fait par amour. Mais il était mal aimé, comme Léa. Voyez-vous? C'était dans cette lignée du mal aimé. Pourquoi est-il devenu le fils de Léa? Pour toi et pour moi. Il est devenu le fils de Léa pour nous tous. Il a pris sur lui nos péchés. Et nous ne voulons plus attendre de personne d'autre, d'un autre être, notre sauveur, puisque nous l'avons trouvé. Vous avez trouvé votre sauveur? Alors ne cherchez pas de sauveur auprès de votre femme ou de votre mari ou de vos enfants. Faites pas des idoles, voyez. C'est ça le message ce matin. Vous avez un sauveur, ben gardez ce sauveur et confiez-vous totalement dans ce sauveur. Les autres ce sont pas des sauveurs, les autres ce sont des collaborateurs dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je reviens à Saïd. Saïd, c'est cette femme, parce que c'était psychiatre. Non, il n'est pas psychiatre, mais il faisait de la relation conjugale. Et un jour, ce pasteur a rencontré une femme qui a eu le malheur d'être belle. Je dis le malheur d'être belle parce qu'elle était tellement belle que, en fait, bah, tous les hommes couraient après elle. Et elle, elle cherchait son identité dans les hommes. Et quand elle avait plus d'hommes, elle allait voir n'importe qui, même un alcoolique, parce qu'il avait besoin, il a développé son identité au travers de ce besoin d'être vu, d'être, voilà, tout le monde regardait, voilà. Donc, et voilà, elle est devenue, complètement accro, et son identité, c'était ça. Elle pouvait pas vivre autrement. Et quand elle a plus d'hommes à sa disposition, elle allait voir n'importe qui, hein. Et voilà, elle a gâché sa vie, quoi. Vous voyez? Et cette femme, Saïd, a pu reprendre sa vie à zéro. Donc l'histoire se finit bien pour cette femme. Et un conseiller, un jour, lui a dit, vous attendez votre identité, enfin vous attendez cette identité et votre salut dans les hommes. Et lui a proposé de chercher un travail pour avoir une indépendance financière, pour pas qu'elle dépende des hommes, et de reconstruire sa vie sur l'estime d'elle-même. Et elle a dit à ce pasteur, voilà, la première proposition, je l'ai acceptée. Elle a rejeté la deuxième proposition, parce qu'il a dit, la deuxième proposition, c'est une idole masculine, de chercher l'estime de soi dans le travail. Donc, bien sûr, la première, oui, l'indépendance financière pour pas dépendre des hommes, mais pas la deuxième. Elle a dit, je ne voulais pas que mon identité repose sur mon succès professionnel. Pas plus que sur les hommes. Je voulais être libre. La véritable liberté, c'est ça. C'est pas la statue de la liberté. Hein. C'est pas proclamer la liberté. Ça, c'est pas la liberté. La véritable liberté, c'est être libéré des idoles. Libéré de ce qui me fait marcher, mon mobile intérieur, mon identité personnelle. Ça, c'est la vérité. Et la plupart de nous, nous sommes pas libres. Enfin, pas dans tous les domaines. Et nous avons besoin d'acquérir cette liberté au fur et à mesure de notre vie chrétienne pour devenir plus mature, pour devenir plus efficace dans le royaume, pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Amen. Et chacun de nous, nous avons besoin de cette progression dans la liberté. Dans Colossiens, elle est tombée sur Colossiens, je vais le lire avec vous, puisque c'est ce verset-là qui l'a vraiment aidé à changer, Colossiens 3, versets 3 et 4. Colossiens 3 et 4. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Je répète, quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Voyez-vous, notre vie, c'est le Christ. Parce que Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand Christ paraîtra dans les cieux, à la fin des temps, nous paraîtrons avec lui, nous serons enlevés et nous paraîtrons avec lui. Voyez-vous, notre identité, s'il est en Christ, nous vivrons ce que Christ vit et ce qu'il va vivre et ce qu'il est. Et notre identité est en lui. Et ça, elle l'a compris. Et l'important n'était pas que les hommes pensent ce que les hommes pensaient d'elle, mais ce que Christ a fait pour elle. Ce que Christ a fait pour elle. Et son amour à son égard. Christ seul est ma vie, a-t-elle dit. Et quand elle rencontrait un homme, elle ne fuyait pas devant lui. Hein, mais elle disait, peut-être ce sera toi qui finira par être mon mari, mais tu ne seras jamais ma vie. Et c'est ça qui l'a libérée, parce que Christ est ma vie. À partir du moment où elle a commencé à penser comme cela, elle est rentrée dans une démarche spirituelle de progrès. Voyez-vous comme quoi spirituel est lié à la pensée, hein. Faut pas imaginer que le spirituel, c'est voilà, chanter des cantiques comme les anges toute la journée. Non, c'est pas du spiritualisme, c'est du concret spirituel. C'est lorsque nous pensons comme Christ pense, lorsque nous pensons comme la parole de Dieu pense, c'est alors que nous ferons des progrès spirituels. Et quand elle a pensé comme cela, comme je viens de vous le dire, eh bien, elle a recouvré la vue, la vie. La vie, elle l'a trouvée en pensant comme ça. Et ça, c'est une discipline spirituelle qui lui a permis de placer des limites par rapport aux hommes. Malgré ce qu'elle était, elle a placé des limites. Et elle a pu aimer un homme pour lui-même. Pas pour ce qu'elle pensait d'elle, vous voyez, des hommes. Donc, elle a pu aimer un homme pour lui-même et pas simplement renforcer son image. Elle a répondu à la question personnelle, universelle, quel être est assez beau pour que, en me tournant vers lui, j'arrive à me détourner de mes idoles. Cet être, c'est Jésus. Pas simplement une beauté physique, mais une beauté spirituelle, une beauté de caractère. En Jésus, tout est beau, parce que il est l'homme parfait. Celui que Dieu a voulu que nous soyons, mais lui, il est les prémices. Il nous a devancés. Et si nous nous identifions à lui, eh bien nous serons comme lui. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions parce que ta parole, Seigneur, ne nous montre pas des personnages parfaits à qui nous ne pouvons pas ressembler parce que ils sont trop éloignés de nous. Mais Seigneur, il nous montre les hommes et les femmes faillibles, comme nous. Mais dans leur faillibilité, dans leur faiblesse, lorsqu'ils ont crié à toi, lorsqu'ils se sont détournés de leurs idoles et qu'ils se sont approchés de toi, ils ont trouvé la guérison. Seigneur, donne-nous à chacun ce matin de réaliser les idoles dans lesquelles nous sommes et nous approcher davantage de toi pour que ces idoles disparaissent, que ces idoles n'aient plus d'influence sur nos vies. Que nous puissions réussir notre vie, Seigneur, parce que c'est toi qui veux la réussir au travers de nous. Et que, Seigneur, nos enfants, que nos conjoints, que nos situations de travail ne puissent pas être affectées, Seigneur, par notre idolâtrie de quelque chose, mais que nous puissions au contraire manifester ta bienveillance, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, ton amour. Aide-nous, nous te prions, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.